ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Gauthier Toumba. Bonjour, vous êtes prêtre congolais et vous venez nous parler de Noël, oui. En France mais dans le monde.
Oui.
En France et dans le monde. Vous êtes depuis quelque temps à Toulouse, à l'Institut catholique, pour faire des études de théologie, de
oui.
philosophie sur le...
Je suis là pour faire mes recherches doctorales, du coup écrire une thèse en théologie. Et j'axe ses recherches autour de la question de l'autorité, au mieux de la primauté du successeur de Pierre. Et cette question de la primauté est un écueil dans l'orientation œcuménique, au point qu'il y a plusieurs souches qui ont été divisées autour de cette question. Au moins aujourd'hui, à l'unanimité, on croit que c'est quelque chose que le Christ a donné à son Église, puisqu'il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Et le Saint-Père, aussi bien le pape François et déjà le pape Saint-Jean-Paul II, demandaient aux théologiens de réfléchir pour voir comment on peut arriver à bien articuler cette autorité primartiale. Alors, je m'attelle un peu à cela, voilà.
Mais déjà du temps de Luther, et puis bien avant. Beaucoup oui. de conciles et des synodes ont dit, est-ce que Pierre, est-ce que...
Non, mais déjà, au sein de l'Église catholique, il y a voilà. eu ce qu'on a appelé le conciliarisme. À un moment, on a voulu que le concile soit au-dessus du pape, mais on s'est mis d'accord que si c'est le Christ qui l'a voulu, c'est un désir du Christ. Il faut reconnaître à l'unanimité que l'autorité du pape est un don que le Christ a fait à cette Église. Et aujourd'hui, ça n'a plus été un objet de division, mais il faut voir comment refuser une certaine centralité. C'est comme ça qu'on est dans ce débat-là.
Avec l'autorité qui est un service.
Oui.
Mais nous en reparlerons. Parce
qu'on aura l'occasion d'en parler.
Avant que le Christ soit ressuscité, il est venu sur terre comme un petit bébé, et c'est cette fête de Noël
oui.
qui nous comble de joie, mais peut-être aussi avec des excès pour les cadeaux, ça a été mal compris. Et notre réflexion aujourd'hui, c'est de redonner toute la place à l'humilité de Dieu. C'est le cantique que vous nous avez apporté qui fera une petite pause au cours de notre dialogue. Avant d'être étudiant en
oui.
théologie, vous avez fait déjà avant des études de théologie, mais vous avez enseigné au séminaire
oui.
pendant 20 ans après avoir été curé de paroisse.
Oui, je suis prêtre depuis bientôt 20 ans dans mon pays, la République démocratique du Congo. Et là, j'ai exercé plusieurs ministères. J'étais d'abord curé de paroisse pendant un certain nombre d'années, une dizaine, je crois. Et puis après, et pendant ces temps, l'évêque m'avait demandé de l'aider dans sa charge épiscopale. Et puis après, il m'a été demandé de reprendre les études à l'Université catholique du Congo. Au terme de ces études, les évêques ont pensé que je pouvais aider comme formateur et professeur au grand séminaire de théologie, chose que j'ai faite pendant 5 ans, avec beaucoup de passion. C'est au terme de cette expérience que je suis maintenant à Toulouse pour ces recherches doctorales. Voilà un peu succinctement mon parcours.
Pour approfondir ces réflexions, on va dire un peu dogmatiques, ou en tout cas il y a une théologie qu'on peut appeler... Moi je suis sociologue, alors je vais dire
oui.
c'est formel, c'est l'inculturation en Afrique ou dans d'autres pays du monde, c'est l'évolution de la primauté du pape évêque de Rome, et pas évêque du monde entier. Mais il y a aussi toute la pastorale, parce qu'au niveau des paroisses, il y a des nuances, n'est-ce pas, entre... j'étais allé chercher, je vous avais dit, il y a combien de paroisses, et puis 6 archidiocèses, et puis combien de diocèses, n'est-ce pas? C'est très divers.
C'est difficile de parler de mon pays, du coup, puisque c'est un pays profondément chrétien, et un pays très dynamique, avec... Il faut dire non pas 6 diocèses, mais 56 Je n'ai pas vérifié exactement, je crois que je peux me tromper, mais c'est 56 diocèses.
Il suffit d'aller sur le site, on a les derniers recensements avec le nombre de prêtres, de religieux, de religieuses. Et puis aussi, bien sûr, ce problème, il ne faut pas l'évacuer aujourd'hui, c'est le Nord-Est avec des tensions très fortes. Il y a eu des grèves dernièrement, mais nous sommes là pour parler de la paix de Noël.
Oui, évidemment, ça tombe à point nommé de pouvoir y faire mention de cela, puisque si le Christ nous apporte la paix, c'est le cri des anges la nuit de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Déjà, il a été annoncé par le prophète comme le prince de la paix. Et chaque jour, on mesure combien on a encore besoin de cette paix. Mais cette paix qui doit commencer dans nos cœurs. On ne peut devenir artisan de paix que si on a d'abord la paix dans son cœur. Et mon pays est en train d'assister, ce n'est pas le lieu de parler de la politique, à une guerre qui lui est imposée par ses voisins. Si je peux dire un mot, c'est prions pour la paix dans le monde, que le Christ qui arrive apporte effectivement la paix dans le cœur. Puisque quand tout le monde a la paix dans son cœur, alors cette paix peut devenir effective dans le monde. Par-delà le besoin humain de prendre le dessus sur l'autre, on peut vraiment être des bâtisseurs de paix.
Alors, il y a effectivement au niveau de l'art, si on aborde la fête de Noël, une infinité d'images plus ou moins colorées avec des Marie qui a des robes de reine, qui a la couronne sur la tête, ou alors c'est cette petite fille, en fait, qui est dans une grotte ou dans une étable avec un âne et un bœuf. Mais c'est venu beaucoup plus tard, cette histoire de l'âne et de bœuf. On va dire, oh, il y a les évangiles apocryphes. Là, on rentre tout de suite, n'est-ce pas, dans le patrimoine de l'humanité. Je vous avais posé la question, c'est quand même pas indifférent que, presque au niveau du monde entier, eh bien, c'est Noël, le solstice d'hiver, et puis l'an 1 de notre ère, il y a eu des débats.
Mais ça, c'est très intéressant. Il faut reconnaître que les historiens se sont mis d'accord pour que la naissance de Jésus coïncide avec l'an zéro de l'ère chrétienne. Oui, même si par ailleurs, on parle de l'erreur de Denis le Petit, ce n'est pas le lieu d'en parler. Ça veut dire que l'on reconnaît que le Christ dans le monde, venu dans le monde, il change le cours de l'histoire. Puisqu'au fait, c'est lui le maître de l'histoire.
Sous le règne de l'empereur, voilà un autre roi du monde, si on est chrétien. Mais les autres vont dire, ben non, parce qu'il y a aussi l'année de l'Égir. Alors 622, c'est-à-dire 1445, puis les autres vont dire, non, en Chine, c'est le tigre qui laisse la place au signe chinois du lapin. Et puis nos amis juifs vont dire, ben non, nous sommes en 5782, Abraham, bon. Alors, tout ça, on va laisser aux historiens, aux anthropologues, mais je crois que c'est intéressant de situer que là, vous avez une parole, que vous dites une parole de foi, de vérité. Ma foi, j'y crois. J'avais dit, mais Dieu vous a parlé, Jésus vous a parlé quand vous étiez petit pour avoir envie d'être prêt, de consacrer votre vie à cet amour que vous annoncez tous les jours.
Mais Benoît a eu une belle aventure avec Dieu. On ne peut pas servir le Seigneur si on n'a pas écouté son appel. Et d'ailleurs, même le Saint-Père demandait que les jeunes actuellement soient encore à l'écoute de Dieu. Ma vocation est une belle aventure. Parfois, j'aime bien dire que la plus belle rencontre que j'ai faite dans ma vie, c'est de rencontrer le Christ. Depuis tout jeune, dans ma famille, une famille chrétienne, et puis... J'ai senti qu'il m'appelait, non pas à chercher de l'argent dans le monde, mais à lui consacrer ma vie. Puisqu'un prêtre, c'est qui finalement? C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour les autres. Et on en fait l'expérience à longueur de journée. C'est pas toi-même qui décides ce que tu veux faire, mais tu sens que tu as donné ta vie. Et même ses études, c'est pas toi qui demandes d'aller étudier, mais c'est l'évêque qui dit « je pense que tu pourrais être plus utile pour l'Église dans tel axe », et puis tu le fais. Donc, cette aventure a commencé tout jeune et puis il a eu son parcours. Et finalement, je suis devenu prêtre dans mon pays. Et après, j'ai eu le parcours que j'ai mentionné. Et maintenant, je suis en France pour ces recherches doctorales. Voilà.
Et on vous sent heureux. J'avais dit, on va prendre comme musique le Buxtehude, l'oratorio de Noël, exulté de joie. Mais on sent que, oui, de répondre à l'appel, vous m'avez dit, ce n'est pas moi qui vous ait choisi.
Oui.
Jésus, c'est Jésus qui vous a choisi.
Non, finalement, je peux même dire à la suite du prophète Jérémie, comme il aimait bien le dire, « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire et tu m'as finalement terrassé, tu m'as vaincu. » C'est pas une vocation, est un moment de recherche hein, pendant tout le séminaire et puis dans toute sa vie, finalement, on s'émerveille de voir que, en dépit de notre fragilité, on a donné sa vie pour les autres et avec l'appui du Seigneur, on reste accroché et puis on fait son travail comme prêtre, cherchant le bonheur des autres. C'est une belle expérience et j'aime toujours dire que s'il m'était demandé de reprendre, je ne ferais que ça. Ma joie, c'est d'être prêtre et j'aimerais bien n'être que prêtre, voilà.
Et vous remerciez aussi votre famille qui oui. vous a permis de baigner dans ce climat porteur, parce que... on dit, donnez-nous de bons prêtres, de saints prêtres. Les familles, c'est important aussi pour aborder cette question de l'éveil à la foi. Ma foi, j'y crois. Et puis
oui, ça sera vraiment ça. Ça sera tout un dossier, tu sais, Benoît. Puisque déjà jeune, j'ai dit que j'ai baigné dans une atmosphère de prière. Et quand on priait en famille, ma mère disait toujours au Seigneur, « Seigneur, tu as dit que la moisson est abondante et des ouvriers sont peu nombreux. » Alors, elle demandait au Seigneur, « Tu m'as donné des enfants, tu peux en choisir un. » Et j'écoutais. Et quand elle demandait à l'un ou l'autre de prier, tout petit, on rébalbutiait sur nos lèvres les paroles qu'on a entendues de la maman. Et chacun disait, ben, « Écoute, nous sommes là, tu peux choisir l'un de nous. » Au point que quand je disais après à la famille que ben, je voulais devenir prêtre, c'était comme une réponse à la prière qu'on avait faite. Et je n'ai eu donc aucune difficulté et chemin faisant. Voilà, aujourd'hui je suis prêtre, c'est l'essentiel.
Alors nous écoutons ce cantique que vous nous avez apporté, l'humilité de Dieu.
Oui.
Regardez.
Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et aujourd'hui, avec Gauthier Toumba, vous venez nous parler de votre joie. Vous êtes prêtre congolais de RDC et vous êtes à Toulouse pour des études de théologie sur l'autorité de Pierre et du pape aujourd'hui et dans le monde entier.
Oui, l'autorité, le pouvoir, l'autorité, ça veut dire la primauté que le Christ donne à Pierre, mais une autorité qui se veut d'abord service. C'est ce que Jésus lui-même a fait au terme de sa vie, lors de la dernière scène. Il a lavé les pieds de ses apôtres.
Il y a des décisions à prendre aujourd'hui, oui, dans l'Église et dans le monde, et ce n'est pas simple. Il faut la prière de l'ensemble de ces millions de catholiques avec des continents différents. Je voulais que vous nous parliez, mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui, de l'inculturation, puisque l'Europe, ce n'est pas l'Asie ni l'Afrique, et l'Afrique, ce n'est pas des pays du Maghreb ou de l'Afrique.
Effectivement, cette question, elle est pertinente. Et l'autorité ecclésiale et même épiscopale dans mon pays s'en est vite rendu compte que l'évangile qui a été apporté en Afrique a peut-être eu à être amené avec une culture, la culture occidentale. Nos évangélisateurs devaient faire la part de choses entre l'évangile qu'ils annoncent et la culture dont ils étaient porteurs, pour qu'ils ne puissent pas nous imposer leur culture, mais que l'évangile s'insère dans la culture de ceux qui le reçoivent. C'est ça justement le terme inculturation.
Mais même en France, si l'on voit la différence au niveau du langage, quand ma maman faisait du catéchisme, quand j'étais en études de sociologie avec des agnostiques, et oui, lorsque nous réfléchissons sur la génération X, Y ou Z, bientôt alpha, eh bien, nous sommes devant la difficulté de transmettre cette foi. Et la question des dogmes, nous reparlerons sans doute de Mgr Ratzinger quand il était responsable de la doctrine de la foi. Je crois que nous aimons tous les deux réfléchir, méditer sur ce chant à Noël qui pose des questions de théologie. Il est très beau, Minuit chrétien, cette heure solennelle où l'homme-Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la faute
originelle.
Oui. Et de son père effacer le courroux. Alors ça, moi, ça me met en colère parce que c'est une théologie descendante. Martin Pochon a expliqué que c'est la lettre aux Hébreux.
Vous avez raison. C'est justement quelque chose qui peut choquer. Mais il faut comprendre que ce chant est issu d'une certaine théologie d'une époque.
Et une anthropologie, oui, du siècle dernier, oui, et même du Moyen-Âge.
Comme aujourd'hui encore, dans l'Exultète, on peut dire « l'heureuse faute qui nous a valu le salut ». C'est de la même manière qu'on dit « minuit chrétien, il est venu effacer le courroux ». Ça donne l'idée d'un Dieu méchant qui était courroucé. Et pourtant, Jésus nous révèle Dieu d'abord comme un père. Quand on parle de Noël, je crois que la joie de Noël, c'est d'accueillir notre salut. Le salut n'est pas quelque chose de mérité.
Mais il y a plein de gens qui pensent qu'on n'a pas besoin d'être sauvé, que péché, faute, culpabilité, tout ça, c'est morbide. Il faut être un homme responsable de soi-même, de sa vie. Alors, vous allez me dire, mais c'est de l'orgueil. Donc, on retrouve alors la petite fille de Nazareth qui dit, tous les orgueilleux, il les renvoie.
Vous l'avez si bien dit. Et déjà, aujourd'hui, l'autorité de l'Église a reconnu que notre monde est caractérisé par une chose, Benoît, vous savez. C'est le sens du péché qui est absolument perdu. L'homme pense qu'à lui seul, il peut tout. Mais il faut seulement voir l'orientation que le monde prend.
Et que la nature nous rappelle. Oui. La nature nous rappelle de temps en temps qu'on n'est pas tout puissant.
Oui.
Et qu'on est responsable aussi de nos actes. Alors, oui,
alors,
une morale.
Je ne dirais pas une morale, je dirais plutôt nous émerveiller d'abord de l'amour gratuit de Dieu et essayer d'accueillir cet amour. Je crois qu'aujourd'hui, fêter Noël est une tâche qui est offerte à notre liberté. Quand on fête Noël, on s'émerveille de l'immensité de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. Et quand l'amour est donné, on le reçoit. Alors, si j'ai tenu à être présent à votre invitation, c'est pour partager cette joie.
Oui, mais il y a des mineurs isolés, il y a des enfants qui n'ont pas de parents ou qui sont dans un couple qui est en train de divorcer. Il y a beaucoup de tristesse aussi. Et je connais des personnes qui craignent Noël chaque année parce qu'ils ont froid, parce qu'ils n'ont pas de cadeaux et parce que ça leur rappelle des souffrances dans leur enfance. Cette espérance de l'amour.
Le pape François intervient là-dessus pour faire fustiger le fait qu'aujourd'hui, la fête de Noël est un peu comme récupérée par les commerçants, dans un consumérisme qui caractérise notre monde. Et pourtant, d'abord, c'est une fête que nous devons accueillir dans nos cœurs. Dans nos cœurs, de voir que le Christ vient dans une famille. C'est une fête en famille. C'est pour moi l'occasion d'inviter les familles à se retrouver pour passer un moment de joie.
Et partager.
Oui, partager cette joie. Jésus serait venu de là où on ne sait pas. Ça serait peut-être plus facile.
Le mystère.
Mais il a choisi d'entrer dans le monde, dans une famille. Cela est devenu même comme un écueil. On n'a pas accepté, puisque d'aucuns disaient, mais son père c'est elle. Comment il peut dire qu'il est l'enfant de Dieu? Mais Dieu a choisi ce chemin-là pour qu'il vienne dans nos familles. Il entre dans le monde en commençant par souffrir, pour qu'il se mette à côté de tous les pauvres. C'est là que je dis, justement, Noël est une tâche qui nous est offerte pour qu'en célébrant Noël, nous puissions communier à tous ceux qui sont dans la souffrance et leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls.
Alors, il y a le folklore, mais vous nous avez fait le cadeau d'apporter cette image. On voit le pape François qui regarde une crèche. Ça nous permet de faire le replay, cette image que vous nous avez apportée de 2020.
Oui.
Et il nous dit, regardez la crèche. Contemplez ce mystère de... Alors, on va utiliser un grand mot, la kénose, mais vous êtes professeur de théologie.
Oui, mais justement, c'est ça. C'est la kénose du Fils de Dieu. De Dieu qu'il était, il s'est fait tout petit. Il est entré dans le monde pour nous inviter à l'humilité. Et on a chanté « Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'amour de Dieu manifesté dans cet enfant. » Et au lieu de se faire grand, Dieu s'oppose aux orgueilleux, c'est aux humbles qu'il accorde sa grâce.
Et vous nous apportez le psaume 117 également.
Oui, oui.
Qui est celui de la joie.
De la joie.
Et la préface qui conclura notre entretien, parce qu'il faudra revenir pour parler de Monseigneur Ratzinger et de la théologie de l'évolution, parce qu'il y a aussi toute la dogmatique, bien sûr, toute la révélation. Mais vous me disiez qu'au séminaire, ce qui est très important, c'est pas d'enseigner seulement, parce que vous vivez avec les séminaristes, vous partagez le pain. Il y a cette prière commune, il y a le temps qui est partagé. Donc oui. Il y a la pastorale et il y a
la formation au séminaire est axée sur trois axes. La formation humaine, la formation intellectuelle et la formation spirituelle. Le prêtre, ce n'est pas un homme à qui on a fait gober des théories, fût théologiques. Ou quoi, mais d'abord quelqu'un que l'on a formé dans la prière et humainement, puisqu'il est d'abord un homme au milieu des hommes, mais il doit être formé aussi intellectuellement et formé spirituellement. Ce sont donc ces trois axes qui font la formation du prêtre. Et je voudrais, en terminant, et pour inciter aussi bien nos auditeurs que nous-mêmes à cette joie de la nativité, faire mienne la préface de Noël. Je prends la première préface de la Nativité qui dit ceci: « Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. » C'est ça la joie de Noël, aimer Dieu, l'accueillir dans nos cœurs et finalement partager cette joie.
Et cette paix, c'est pour ça que le psaume 117 que vous nous aviez aussi apporté, c'est « Fêtez-le, tous les pays ». Merci beaucoup Gauthier, et il faudra que vous reveniez pour nous parler un petit peu de votre thèse, de votre réflexion de théologie.
Avec plaisir.
Gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté.
À tous, bonne fête de Noël.